y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique. Avec Loïc Bussière, les déclarations des uns et des autres, nous décrypterons cette parole politique avec vous. Eddy Vautrin-Dumaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études à Kantar Public. Impôt sur le revenu, et si on faisait payer tout le monde? C'est la question qui barre toute la une du journal du dimanche, compte tenu de ce que la ministre de la Cohésion des Territoires déclare dans les colonnes de l'hebdomadaire. Jacqueline Gourault estime qu'il faut redonner à chacun le sens de l'impôt, sachant que 53% des Français ne paient pas d'impôts. Alors, est-ce une annonce? Eh bien non. En effet, très vite après l'apparition du journal, l'entourage du Premier ministre a dit que ce n'est pas à l'étude, Loïc Bussière.
Ouais, autant dire que tous les ingrédients d'un mini-couac seraient presque réunis, d'autant que cet épisode intervient après d'autres ballons d'essai lancés par Benjamin Griveaux sur une éventuelle remise à plat des niches fiscales, ou encore par François de Rugy qui se disait il y a un peu plus d'une semaine favorable à un retour de la taxe carbone. Pour François Bayrou, ce nouveau remous n'était donc pas forcément utile, car la question de l'impôt payé par tous est en fait déjà réglée.
Ça crée une polémique énorme, parce que en réalité, les contributions de tous les Français à l'impôt, tous sans exception, elles existent. Tous les Français paient la TVA quand ils vont faire leurs courses, quelle que soit leur situation. Et surtout, s'agissant des prélèvements sur le revenu, tous les Français paient la CSG. Mais moi, je connais Jacqueline Gourault, donc je sais que sa réflexion est une réflexion naturellement dans un cadre plus général et solidaire.
Le président du Modem qui n'a visiblement pas la même lecture de la sortie de Jacqueline Gourault que Matignon. Pierre Moscovici, de son côté, a une vision encore différente du problème. La question de l'impôt pour le commissaire européen aux affaires économiques, eh bien, elle ne peut s'affranchir de celle de l'ISF.
J'ai appartenu à un gouvernement qui n'a pas touché à l'ISF. J'ai appartenu et j'appartiens encore à un parti qui a créé l'ISF. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron a voulu réformer l'ISF, parce que tel qu'il était, il n'était pas parfait. Et je comprends aussi pourquoi, du coup, on ne souhaite pas le rétablir. Mais la question centrale, c'est la question, en effet, du consentement à l'impôt. Vous ne parviendrez pas à rétablir le consentement à l'impôt des plus pauvres ou des classes moyennes dans ce pays s'ils ont le sentiment que les plus riches échappent à l'impôt.
Voilà, alors faut-il, comme le suggère Pierre Moscovici ici au micro d'Europe 1, revoir l'impôt pour les plus riches ou bien se contenter d'un système dans lequel tous les contribuables mettent la main à la poche via notamment la TVA, ce que décrivait François Bayrou à l'instant. Adrien Quatennens, lui, a une autre façon de résoudre l'équation. Écoutez le député de la France Insoumise du Nord.
Je suis pour que tout le monde paye, mais que le fait que tout le monde paye soit nécessairement associé à une meilleure répartition de l'effort entre tous et à une refonte fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 5 tranches d'impôts. Moi, je souhaite que l'on passe à 14 tranches d'impôts pour véritablement lisser l'effort entre tous.
Voilà, Adrien. Quatennens, invité de BFM aujourd'hui, Philippe.
Eddy Vautrin-Dumaine, un ministre qui s'exprime pour ensuite être recadré. Cela arrive régulièrement. Est-ce que le gouvernement n'apprend pas de ses erreurs, ou est-ce une stratégie politique consistant à lancer des ballons d'essai pour voir comment l'opinion publique réagit?
Ce qui est certain, c'est que en ce moment et dans la période du grand débat, aujourd'hui, personne ne s'interdit rien, y compris le gouvernement. Donc il faut aussi, et c'est aussi un message qui est envoyé sans doute à l'opinion publique, de la part du gouvernement, adresser à tous les Français l'image que rien n'est interdit, que toutes les options sont envisageables et que donc le gouvernement se réserve à l'issue du grand débat de choisir telle ou telle option. En tout cas, le but, c'est de dire, voilà, tous les sujets sont mis sur la table, y compris ceux qui sont polémiques ou ceux qui pourront l'être à l'avenir.
Alors, on parlait du grand débat, justement. On a l'impression qu'il y a des déclarations d'intention, des annonces, mais finalement pas de mesures qui sont prises, qui sont décidées en tant que telles. Est-ce que vous diriez que l'exécutif a appuyé sur la touche pause en attendant la fin de ce grand débat national pour ne pas prêter le flanc à la critique sur le mode vous nous demandez votre avis, mais vous n'en avez que faire puisque vous décidez, prenez des décisions pendant ce temps-là?
Ce grand débat, il avait plusieurs objectifs et le premier d'entre eux, c'était de faire retomber la pression sur l'exécutif et de faire sortir la France de cette crise qu'elle connaissait avec l'épisode des Gilets jaunes avant Noël. Sur ce premier aspect-là, sur ce premier objectif, il a plutôt été réussi parce qu'on a vu un certain recul du mouvement, à la fois en termes de nombre, mais aussi en termes de soutien de la part de l'opinion publique. Deuxième élément qui est très important, c'est qu'il faut faire très attention, et l'exécutif en est très conscient, qu'aujourd'hui, 6 Français sur 10, en moyenne, considèrent que leur avis ne sera pas exprimé. Donc, il est capital pour le gouvernement aujourd'hui de montrer que, 1, il est capable de faire descendre la pression, il l'a déjà fait, 2, qu'il écoutera les Français, et 3, que ça se traduira de manière concrète par des mesures qui seront issues du grand débat, et que, de fait, les Français auront pu s'exprimer au cours de ce grand débat.
Autre chose, autre déclaration, une petite phrase, ou plutôt... une pique lancée par Emmanuel Macron. Oui,
après l'échec des négociations sur l'assurance chômage, dossier sur lequel syndicats et patronats n'ont pu que constater leur désaccord et qui ont cette semaine renvoyé la balle au gouvernement. Et ça, ce n'est pas du goût du chef de l'État qui l'a fait savoir.
On dit aux partenaires sociaux, trouvez-nous une solution pour le chômage. Vous êtes autour de la table, vous êtes responsable. Ben, comme c'est difficile, elles ont rendu hier au gouvernement la copie. On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour, dans le pays, on dit... corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire. Et quand on donne la main, on dit, bon, monsieur, c'est dur, reprenez-la.
Le diagnostic d'Emmanuel Macron sur le rôle des partenaires sociaux devant les présidents de département qu'il recevait vendredi, c'était à l'Élysée. Commentaire assez mal reçu, il faut le dire, par les syndicats comme par le patronat, mais qui semble pourtant être juste, en tout cas, à entendre François Bayrou, le président du MoDem.
J'ai lu des déclarations des responsables du MEDEF qui dit la lettre de cadrage était trop serrée.
Mais il n'est pas le seul à le dire, les syndicats aussi disent qu'ils demandaient plus d'1 milliard d'euros d'économie par an.
Eh bien, franchement, si ils ont des solutions, même en dehors de la lettre de cadrage, qu'ils les produisent. Ce que je crois profondément, c'est que l'architecture des corps intermédiaires est elle aussi à reconstruire, à redessiner.
François Bayrou ce dimanche sur RTL dans un tacle, on peut le dire, en bonne et due forme aux partenaires sociaux. Des partenaires sociaux qui de toute façon savaient où ils mettaient les pieds au moment de s'asseoir à la table des négociations. Ça c'est ce que rappelle ce soir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Le Premier ministre, il a envoyé en septembre dernier, 23 septembre, un document de cadrage, comme le prévoit la loi, aux partenaires sociaux. Disant voilà, non pas les solutions, mais les sujets qu'on vous demande de traiter. Les partenaires sociaux avaient le choix de refuser la négociation ou de l'accepter. Ils l'ont accepté, donc ça veut dire qu'ils pensaient pouvoir trouver une solution à ces sujets. Bon, finalement, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont annoncé cette semaine qu'ils ne pourraient pas conclure cette négociation. Alors après, on peut refaire l'histoire.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ce soir sur LCI.
Eddy Vautrin du Maine, directeur d'études chez Qantas. Est-ce que vous pensez que ce débat, ce grand débat national, finalement, court-circuite ces fameux corps intermédiaires que sont le patronat et les syndicats?
En tout cas, il court-circuite un certain nombre d'acteurs, y compris les corps intermédiaires, déjà parce que ça a été un succès. C'était pas du tout quelque chose qui était un succès, entre guillemets, bien entendu. Hein. C'était pas gagné d'avance hein, qu'il y ait une mobilisation populaire. Aujourd'hui, on a quasiment 1 million de personnes qui ont répondu aux questions. On a plus de 400 000 contributions, 6 000 réunions publiques. Donc, effectivement, il y a un certain engouement populaire. Donc, oui, c'est un challenge parce que pour le gouvernement, il faudra en faire ressortir quelque chose. Mais pour les corps intermédiaires, il faut aussi être capable de montrer que malgré tout, eux aussi, ils existent et que eux aussi sont capables de porter des revendications au sein des parties prenantes et du gouvernement notamment.
Pour l'instant, tout le monde est perdant-perdant. L'exécutif qui n'a pas pu voir, qui n'a pas pris la mesure du mécontentement et les corps intermédiaires qui n'ont pas su le relayer à temps.
Effectivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il y a une. On était jusqu'à présent dans une fosse sans issue. La question qui se pose, c'est quelle sera l'issue de sortie, l'issue, la sortie de crise. Et pour l'instant, ni le gouvernement, ni les corps intermédiaires sont en mesure de créer victoire. Donc effectivement, et c'est aussi tout l'enjeu de l'issue et du traitement des résultats, des contributions qui auront lieu au cours du grand débat. C'est que concrètement, ce grand débat, une fois qu'il aura lieu, il y aura un impératif qui sera capital, c'est que tous les Français et l'opinion publique d'une manière générale et le sentiment soit convaincu que ce qui a été dit a été traité de manière juste, de manière correcte et rigoureuse, et que ça se traduise par une réorientation, en tout cas par des actions politiques qui soient compréhensibles par tous, y compris par ceux qui étaient dans la rue. Et là, c'est un sacré enjeu à relever.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Alors que dans les campagnes, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. parce que endetté jusqu'au cou, parce que désespéré de ne pas pouvoir vivre dignement de sa terre ou de ses bêtes, se tient à Paris le Salon de l'agriculture. Comme il se doit, toute la classe politique y est allée ou y ira dans les prochains jours. Pour l'instant, la visite la plus remarquée est celle du président de la République, qui toute la journée d'hier a déambulé dans les allées de la porte de Versailles pour prendre le pouls de la France rurale, dire sa vision de l'agriculture et notamment dire ceci, il faut réinventer la politique agricole commune pour défendre la souveraineté alimentaire de l'Europe.
Oui, des mots prononcés hier au moment d'inaugurer le salon, prélude, vous l'évoquiez, Philippe, à une journée marathon pour le président de la République, dont certains auront d'ailleurs surtout retenu sa performance au parc des expositions de la Porte de Versailles. Près de 15 heures de bain de foule, c'est long, c'est même un record en la matière, mais c'est tout de même un peu court, sur le fond, en tout cas pour Adrien Quatennens.
Je pense qu'il n'est pas sérieux de considérer que pour répondre à la crise du monde agricole, il suffirait de passer 14 heures au salon de l'agriculture. De la même manière que pour répondre à la colère populaire qui s'exprime dans le pays, il faudrait faire 6 heures de meeting toutes les semaines en bras de chemise sur toutes les chaînes d'information. Ce qu'Emmanuel Macron devrait plutôt faire, c'est mettre en cause un système agricole qui emprisonne nos agriculteurs.
Voilà, mais Emmanuel Macron qui n'a pas, au contraire de ce que demande Adrien Quatennens, remise en cause le système agricole tel que défini par l'Europe. Bien au contraire, écoutez le chef de l'État hier.
Notre défi, ça n'est pas simplement, comme le voudraient certains, de liquider l'héritage de plus de 60 ans de politiques agricoles communes, de céder au poison lent de la division. Mais c'est bien de réinventer cette politique agricole commune aujourd'hui.
Voilà, réinventer la PAC, c'est le vœu formulé par Emmanuel Macron hier au Salon de l'agriculture. Une politique agricole commune qui ne serait pas l'ennemi désigné des paysans français. Un constat qui plaît bien justement à Pierre Moscovici.
J'ai écouté ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Arrêtons de faire des oppositions qui sont factices. En réalité, les conceptions d'Emmanuel Macron, de la France et celles de la Commission européenne sont tout à fait proches. Donc n'opposons pas toujours la France et l'Europe. Nos agriculteurs savent ce qu'ils voient à l'Europe.
Voilà, Pierre Moscovici, c'était ce matin sur Europe 1, Philippe.
Je le disais tout à l'heure, encore un agriculteur se suicide tous les deux jours. Ce drame a motivé Patrick Morin, un élu local de Marmande, dans le Lot-et-Garonne, à prendre son bâton de pèlerin, à marcher 250 km du Touquet, villégiature des époux Macron, jusqu'à Paris, où il est arrivé avant-hier. Et il a apporté un cahier de doléances disant la détresse morale du monde agricole. Eddy Vautrin du Maine, de Cantar, le monde paysan est-il gilet jaune dans l'idée de déclassement et de pauvreté?
Il est sans doute gilet jaune, en tout cas c'est comme ça que la majorité des Français se l'imaginent, parce qu'aujourd'hui le sujet de l'agriculture et des agriculteurs, c'est un sujet qui renvoie à tout un tas de dimensions. C'est une dimension culturelle, c'est une dimension territoriale, ça évoque aussi un terroir, un savoir-faire auquel ils sont très attachés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas d'un eurobaromètre que Quentin Public a réalisé, on avait 93% des Français qui considéraient qu'aujourd'hui les zones rurales, elles étaient importantes pour l'avenir. Donc déjà il y a le sentiment que ce sont des territoires importants et à ne pas laisser se déclasser. Puis il y a deux éléments aussi qui sont particulièrement importants, c'est que les trois quarts quasiment des Français considèrent aujourd'hui que la croissance et l'emploi au sein des zones rurales en France se sont dégradés, c'est 29 points de plus que la moyenne européenne. Et puis deuxième chiffre intéressant aussi, c'est que au-delà de cet aspect économique, ils sont 53% à considérer que l'environnement et les paysages au sein de ces zones rurales se sont dégradés, c'est 17 points de plus. Donc effectivement, ils y sont attachés, mais ils ont aussi le sentiment que ces régions-là, que ces territoires-là, ils sont aujourd'hui dans une situation de crise. Une crise à la fois économique, mais aussi une crise écologique. Et on sait que justement toutes ces thématiques écologiques, ces thématiques d'ancrage territorial, de vitalité, de vie même des territoires, c'est un sujet capital pour les Français. Et preuve en est, c'est que lorsqu'on leur demande justement quels sont les sujets de préoccupation qui, eux, les intéressent pour les élections européennes, l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique apparaissent aujourd'hui comme la deuxième préoccupation des Français dans le cadre de cette campagne. Donc, on voit, c'est une préoccupation de plus en plus importante.
Et on en parle bien évidemment dans les allées du Salon de l'agriculture où était le président de la République hier. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes aujourd'hui, d'autres dans les prochains jours. La calinothérapie est donc au rendez-vous du Salon vis-à-vis du monde agricole. Pourquoi est-ce que le monde paysan est-il aussi courtisé? Pourquoi est-ce que le Salon de l'agriculture est-il un incontournable pour un homme ou une femme politique?
Parce qu'il... Déjà, la France, d'une manière générale, et les Français entretiennent une relation particulière avec leur terroir, une relation proche, parce que ça fait écho à tout un imaginaire, parfois fantasmé, mais il y a un certain attachement à la terre. Et puis il y a aussi le sentiment que l'une des particularités de la France, l'une des singularités, l'une des parts, en tout cas l'un des pans de cette exception française, c'est aussi son terroir, ce sont aussi ses vignes, ce sont aussi ses produits. Et qui est-ce qui les fait vivre? Ce sont justement les agriculteurs. Donc effectivement, c'est un sujet capital pour les les hommes politiques.
Tout à l'heure, Loïc Bussière le disait, le président de la République a passé 14h30 au salon, toujours empathique, hein, goûtant à tout, buvant de tout, certes avec modération. On aurait pu croire que le nouveau monde, et dit Vautrin du Maine, ne reproduise pas l'ancien monde, celui d'un Jacques Chirac qui trinquait, qui tâtait le cul des vaches. En fait, rien ne change.
Sur cet aspect-là, non. Et puis, il faut sans doute pas oublier qu'il y a quand même aussi un travail de communication, sans doute, qui a été pensé du côté de l'Élysée, qui cherche en tout cas à faire le contrepoids à toutes les reproches dont Emmanuel Macron a été la cible, c'est-à-dire le candidat des villes, le candidat de la mondialisation. Donc, de fait, c'est capital pour lui, sans doute plus que pour d'autres, de montrer son attachement à la ruralité française.
Alors que se profilent les élections européennes, eh bien, il en a été question hier, on y revient, à ce fameux salon de l'agriculture, lors du discours du président de la République.
Ouais, puisqu'en plaidant en faveur de la PAC, hein, le président s'est de facto projeté vers les échéances à venir, même si pour le moment, c'est surtout, on l'évoquait tout à l'heure, le grand débat national qui prend le dessus, hein, sur celui électoral et européen. Il n'empêche, le 26 mai prochain, les électeurs européens seront appelés aux urnes, avec une incidence sur les politiques nationales. Ça, c'est ce qu'Adrien Quatennens tient à rappeler.
Beaucoup de Françaises et Français ont intériorisé le fait que sans doute la seule élection qui permettait véritablement de changer les choses, c'était l'élection présidentielle. Eh bien notre travail dans la période, et nous sommes au travail, et les militants de la France Insoumise sont au travail, tous les jours, porte à porte, tous les jours, en ce moment même, pour réhabiliter le bulletin de vote comme une issue positive. Nous pensons que le bulletin de vote est l'arme démocratique la plus puissante pour traduire la colère qui s'exprime.
Adrien Quatennens, député à la France Insoumise, l'une des formations à avoir désigné sa tête de liste pour le mois de mai, ça sera Manon Aubry. Les noms de Jordan Bardella pour le Rassemblement National, de Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, de François-Xavier Bellamy pour Les Républicains sont également connus. En revanche, du côté de la majorité présidentielle, c'est encore le grand flou. Les noms de Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires Européennes, ou encore d'Agnès Buzyn, sa collègue à la Santé, sont évoqués. La piste Alain Juppé s'est refermée d'elle-même avec la nomination du maire de Bordeaux au Conseil constitutionnel. Autre hypothèse, la garde des Sceaux Nicole Belloubet était aujourd'hui l'invitée de France 3.
Je vous rappelle que moi j'étais prof de droit dans ma vraie vie, dans mon premier métier, et j'étais surtout prof de droit européen. Je crois profondément à l'Europe.
Donc, votre présence sur une liste européenne, ça pourrait venir
si, ça, si vous le dites.
22, 30, non, on s'arrête là.
Avec donc Nicole Belloubet sur France 3. Eddie Vautrin du Maine, les instituts de sondage s'attachent au sujet qui intéresse le plus les Français à l'occasion des élections, notamment de ces élections au Parlement européen. Qu'est-ce qu'il en ressort ?
Il en sort déjà que l'intérêt pour l'instant il est modéré pour ces élections européennes. On a à peu près entre 4 et 5 Français sur 10 entre 4 et 5 Français sur 10 qui ne sont pas intéressés par ces élections européennes. Elles interviennent en tout cas pour ce qui concerne la France dans un climat qui est extrêmement confus en termes d'actualité, où les actualités se superposent les unes sur les autres, où les sujets sont électriques, où l'état de la société française est lui aussi électrique. Donc effectivement c'est compliqué pour les thématiques européennes d'émerger. Néanmoins il y en a deux qui émergent nettement lorsqu'on leur demande justement quels sont les sujets dont ils souhaiteraient que l'on parle pendant l'élection européenne. C'est d'une part la lutte contre le chômage des jeunes notamment, et ensuite la lutte contre le réchauffement climatique et les aspects liés au développement durable, avec une progression de 14 points par rapport à ce qu'on observait il y a quelques mois.
Alors qui pour porter ces débats, ces questions politiques, beaucoup de personnes sont pressenties pour se présenter à ces élections européennes, à commencer par les têtes de liste, mais il y a peu d'enthousiasme. Pour quelles raisons ?
Les Français ont une relation ambivalente avec l'Europe. C'est-à-dire que d'une partie, en tout cas ce qu'on voit dans les enquêtes qualitatives mais aussi quantitatives, c'est que les Français, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne rejettent pas l'Europe dans sa globalité. Ils y sont profondément attachés. Ils considèrent que la France a beaucoup à y gagner, qu'elle en a profité et qu'un retrait lui serait défavorable. En revanche, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est le fonctionnement de l'Europe. C'est Bruxelles, dans le langage commun, avec des institutions dont ils ont le sentiment qu'elles ne sont pas transparentes, que finalement elles n'arrivent pas à refléter leur volonté, et finalement que ces institutions-là se trouvent en décalage avec leurs préoccupations quotidiennes de Français. Mais ce sont aussi des phénomènes qu'on observe en France, mais que l'on observe en Italie ou dans d'autres pays de l'Europe du Sud. Donc on le voit, c'est un scrutin qui est finalement assez loin, alors même que les Français ils sont plutôt demandeurs de plus d'Europe, notamment sur des questions qui leur semblent devoir être réglées à l'échelon européen, l'immigration, l'environnement notamment.
Merci pour ces analyses et ces commentaires, Eddy Vautrin du Maine, directeur d'études à Kantar Public. La politique encore sur RFI. Dans Mardi Politique, eh bien, ce sera Jean-François Copé qui sera l'invité de la rédaction, le maire de Meaux, ancien ministre du budget, ancien président de l'UMP.